Le journal, Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, un mur construit à la hâte au nord de Paris. Il est censé éloigner les riverains des toxicomanes que les autorités viennent de déplacer. On y revient après les autres titres, Christelle.
Il s'appelait Maxime Blasco. Ce caporal-chef de 34 ans a été tué au Mali par un tireur embusqué. Le soldat qui avait brillé par son courage avait même reçu la médaille militaire. Nous ferons le point aussi sur la transformation en cours de l'opération Barkhane. L'Allemagne indécise. Près de 40% des électeurs ne savent pas quel successeur choisir Angela Merkel. Nous irons à Cologne au meeting du favori, le social-démocrate Olaf Scholz. Un petit Côte-du-Rhône village, un pinot noir ou un chablis, c'est le moment de profiter des foires au vin. Nous vous donnerons quelques conseils pour éviter les fausses bonnes affaires. Et puis nous retrouverons Laetitia Bernard pour le journal des sports. Les supporters de Ligue 1 sauront-ils se tenir ce week-end?
Notre invité dans 20 minutes, Emmanuelle Wargon, la ministre chargée du logement. On va interroger avec elle l'aile gauche de la Macronie.
France Inter.
Un mur, construire un mur pour se protéger
dans la
d'une
soirée
menace.
D'hier,
voilà, je reprends. Un mur, donc, construire un mur pour se protéger d'une menace, comme à Berlin, comme au Proche-Orient. Là, le mur est modeste, il n'a rien de géopolitique, mais c'est tout un symbole. Un mur de parpaing a été bâti à la hâte hier, à la demande de la préfecture de Paris, juste après l'évacuation d'une cinquantaine de toxicomanes du Jardin des Halles et leur réinstallation moins de 2 kilomètres plus loin, vers Pantin et Aubervilliers. Un tunnel sépare la capitale de Pantin, enfin, séparait Alain Gastal.
Dans la soirée d'hier, les ouvriers terminaient le deuxième mur, celui côté Pantin qui ferme donc hermétiquement le tunnel sous le périph. Côté Paris, on trouve donc le square où sont parqués les adeptes du crack. Côté Pantin, des habitants qui regardent le spectacle et oscillent entre l'ironie et la colère.
Ce mur, on a comme une impression d'avoir une frontière entre le Mexique et les États-Unis ou bien l'Israël et la Palestine. Mais en vérité, ce mur, ce qui va se passer, c'est qu'ils peuvent faire le tour de l'autre côté. Donc ça ne changera pas grand-chose.
Pour cet autre riverain qui s'occupe de soutien scolaire et habite tout près de là, ce mur donne le sentiment d'être séparé de Paris, sans pour autant être éloigné de la toxicomanie.
C'est comme si c'était le seul accès aux quatre chemins et à Pantin. Ils vont passer de l'autre côté et nous allons être envahis. J'ai ma fille qui vient de rentrer au collège. Elle a 11 ans. Elle rentre toute seule manger le midi. Je vais avoir la boule au ventre en allant au travail tous les jours. En me demandant est-ce qu'elle n'a pas été suivie par un toxicomane ou par un cracker.
Les murs ont été construits à la seule demande de la préfecture de police qui précise qu'ils sont temporaires et qu'il s'agit de protéger les habitants de Pantin et d'éviter toute occupation du tunnel.
Et les riverains continuent, eux, de réclamer une solution pérenne face aux toxicomanes.
En 7 ans, la France a perdu 52 soldats dans le Sahel et le dernier, il y a seulement quelques heures.
Oui, le caporal-chef Maxime Blasco, 34 ans, issu du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, a été pris pour cible par un tireur embusqué près du Burkina Faso. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Le président de la République a fait part d'une émotion particulièrement vive au vu de ses états de service.
Oui, alors on va déjà revenir sur ce qui s'est passé hier. Il a trouvé la mort lors d'une opération qui a débuté tôt le matin. Un drone Reaper a repéré dans la fameuse région des trois frontières, c'est vers la forêt de Ndaki, près du Burkina Faso, un groupe terroriste armé. Deux hélicoptères d'attaque sont aussitôt envoyés sur place. Un commando de la force Barkhane est déployé au sol. C'est lors de cette intervention que le militaire a été blessé dans un premier temps par un tireur embusqué. Il décédera un petit peu plus tard de ses blessures. Le terroriste a lui aussi été tué, expliquent les militaires français. Le caporal chef avait reçu, vous l'avez dit, en juin dernier, la médaille militaire pour la valeur exceptionnelle de ses services. Il faut dire qu'il avait fait preuve d'un sang-froid extraordinaire lors d'une opération de nuit, il y a quelques temps. Un hélicoptère Gazelle avait été touché par des tirs et s'était écrasé. Dans les hélicoptères, ils étaient trois et le caporal-chef avait réussi à sortir le pilote et le copilote, tous deux blessés, pour les mettre à l'abri. Il leur avait tout simplement sauvé la vie.
Merci Nathanaël. Alors ce décès intervient dans un contexte particulier pour la France qui réduit la voilure au Sahel et réorganise son dispositif. Elle quitte les bases au nord du Mali tandis que les troupes passeront de 5000 hommes aujourd'hui à moins de 3000 d'ici 2023. Mais pour Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées, c'est un désengagement très progressif.
C'est une transformation de l'opération Barkhane, c'est une réarticulation pour s'adapter à la menace, à sa dissémination. Et donc oui, il y a en ce moment des fermetures de bases au nord du Mali, à Kidal, à Tessalit, à Tombouctou. La zone d'engagement et où le caporal-chef Blasco a perdu la vie hier était une zone au sud du Mali, qui est une zone malheureusement dans laquelle il y a énormément d'actions terroristes et où la France reste très engagée pour un objectif qui est d'éviter que cette zone ne devienne un sanctuaire de terroristes qui pourraient frapper la France. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, nous avons au mois d'août neutralisé l'émir de l'État islamique au Grand Sahara, Abu Walid al-Sahraoui, qui était un grand chef terroriste. Donc nous contribuons à désorganiser ces organisations terroristes, que ce soit les filiales de Daesh ou que ce soit les filiales d'Al-Qaïda au Sahel.
Hervé Grandjean, le porte-parole des armées, interrogé par Ersine Lebovitch sur France Info. Le marché unique de l'électricité est obsolète et aberrant. Bruno Le Maire ne cache pas son agacement. Le ministre de l'économie dénonce avec ses mots le système européen qui cale le prix de l'électricité sur celui du gaz, alors que la France est indépendante en matière de production électrique grâce au nucléaire. Il compte aborder la question avec ses homologues dès la semaine prochaine. Le prix du gaz a quadruplé sur les marchés internationaux depuis le mois d'avril. Plus on approche des élections législatives en Allemagne, plus c'est l'incertitude entre les deux favoris pour succéder à Angela Merkel. Et comme près d'un Allemand sur quatre est encore indécis, les têtes d'affiche jettent leur dernière force dans les meetings. Hugo Flotta-Talon, vous avez suivi le favori, le social-démocrate Olaf Scholz à Cologne. Il est déjà vice-chancelier, il n'a plus qu'un pas à franchir.
Plus souriant, plus détendu qu'à l'accoutumée, Olaf Scholz apparaît sur scène après près de 200 rendez-vous de campagne. L'actuel vice-chancelier d'Angela Merkel veut en finir avec les conservateurs. Nous avons besoin d'un nouveau départ, d'un changement de gouvernement, un gouvernement dirigé par le SPD, clame-t-il. Olaf Scholz fait applaudir les marches des jeunes pour le climat à quelques mètres. Il insiste, se posant en candidat du peuple, des familles, des travailleurs, pour l'augmentation du salaire minimum à 12 euros de l'heure contre 9,60 aujourd'hui. C'est une question de respect, dit le candidat. C'était très bien d'applaudir les travailleurs soudainement essentiels, mais il serait encore mieux que ces applaudissements et la reconnaissance soient encore là après la crise. Acclamation dans le public, mais les militants sociaux-démocrates comme Matthias Caradi savent que rien n'est joué. On voit que la CDU, les conservateurs, se rapprochent. On ne connaît pas non plus les résultats des votes par correspondance. Ça pourrait être très serré entre CDU et SPD, dit-il. Beaucoup de militants suivront d'ailleurs les appels répétés de leur chef de file à convaincre jusqu'à la dernière minute et feront encore campagne ce samedi. Cologne, Hugo Flotta-Talon, France Inter.
Olaf Scholz, une source d'inspiration et d'espoir pour Anne Hidalgo, la maire de Paris, candidate à l'élection présidentielle, était présente hier soir au meeting de Cologne. Elle est même montée sur scène pour la photo finale.
La politique en France avec cette autre question. Quel candidat pour les écologistes?
Les 120 000 inscrits votent jusqu'à mardi pour départager Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Du côté des Républicains, on en est encore à choisir. Comment choisir? Autrement dit, comment départager les candidats, même hors parti? Un congrès dématérialisé doit dire s'il faut une primaire à minima, la dernière à laisser de mauvais souvenirs, ou un simple vote des adhérents. Pendant ce temps, François Bayrou, lui, cherche à construire ce qu'il appelle sa maison commune. Ça fait des années que le patron du Modem rêve d'une force centriste avec les marcheurs. Eh bien, il réunit les siens à Guidel dans le Morbihan et il prépare les alliances, Maxence Lambrecq.
Le mariage entre La République En Marche et le Modem se prépare depuis l'été. Richard Ferrand et François Bayrou se sont mis d'accord sur l'essentiel. Pas de fusion, chacun gardera son argent, ses circonscriptions, mais avancera sous un même drapeau. Et aucun des deux mouvements fondateurs ne doit voir son influence diminuer à la suite de cette unification, précise François Bayrou. Dans les rangs du Modem, ça va couiner ce week-end. Côté militant, prédit un membre de la direction, car rares sont ceux qui ont de bons rapports avec les marcheurs sur le terrain, et quand on est le petit de la couvée, on se demande toujours si on ne va pas se faire manger. Or, ce qui inquiète François Bayrou, ce n'est pas LREM en manque d'incarnation et d'implantation, mais le futur parti d'Édouard Philippe. Pour peser dans la prochaine législature, mieux vaut tout de suite faire bloc avec les historiques de la Macronie, résume un député. Résultat, Richard Ferrand, Stéphane Séjourné, Stanislas Guérini et bien d'autres seront accueillis à bras ouverts aujourd'hui et demain. Et si les fiançailles se passent bien, François Bayrou participera la semaine prochaine à Avignon au campus de La République En Marche.
Maxence Lambrecq, allonger le délai d'avortement de 12 à 14 semaines en France. Au bout d'un an, la proposition de loi n'a toujours pas été adoptée. Pour faire pression sur le gouvernement, une manifestation aura lieu cet après-midi à Paris à l'appel d'un collectif d'associations. Entre 3000 et 5000 femmes sont contraintes chaque année de se rendre à l'étranger parce qu'elles sont hors délai. Le Covid fait des ravages en Guyane. Jamais elle n'a enregistré autant de décès et d'admissions en réanimation. Sur les 7 derniers jours, d'après Santé publique France, 21 personnes ont succombé. Un chiffre jamais atteint. Il y a même une hausse des hospitalisations en pédiatrie. Seuls 30% des Guyanais sont complètement vaccinés. Dans l'Hexagone, nouveau samedi de mobilisation des Antilles. À noter que le pass sanitaire sanitaire s'appliquera aux 12-17 ans à partir du 30 septembre. De Lidl à la grande épicerie du bon marché en passant par Auchan, Carrefour, Monoprix, Leclerc, vous l'avez sans doute remarqué, c'est la foire au vin. Chaque automne, plus de 60 millions de bouteilles partent en quelques semaines. Ça représente un chiffre d'affaires qui tourne autour de 450 millions d'euros. Mais ce n'est pas forcément la foire aux bonnes affaires. Alors soyons malins. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste consommation ici à France Inter. Alors comment faut-il s'y prendre ?
Alors d'abord, une foire au vin, ça se prépare tranquillement en comparant chez soi les catalogues des grandes surfaces, en se renseignant sur Internet, sur la qualité d'un millésime, sur la réputation d'un château, en consultant des guides, intéressant aussi les dégustations, pas toujours possible en temps de Covid, ou les présentations pour rencontrer directement les vignerons. Parmi les pièges à éviter, les réductions trop alléchantes, avec deux bouteilles offertes pour quatre achetées, ou un prix de départ artificiellement gonflé.
Justement, Agnès, y a-t-il un budget pour se constituer une cave ?
Alors disons qu'avec 400 euros, il est possible d'acheter entre 35 et 60 bouteilles. Il existe de très bons vins autour de 10-15 euros. Les conseils de Louis-Victor Charvet. Il est rédacteur en chef de la revue En Magnum et expert chez Béthane Plus de Sauve.
Une cave, ça se gère sur le long terme. Il y a des bouteilles qu'on va acheter pour les boire assez rapidement. Les foires au vin constituent d'ailleurs, dans ce sens-là, une période de très bonnes affaires pour les vins qui seront consommés lors de la période des fêtes qui arrive. Mais c'est aussi une période de très bonnes affaires pour des vins qu'on a envie de garder un petit peu dans sa cave pour les boire un peu plus tard.
Ne pas se laisser impressionner par les grands crus, éviter le prêt-à-penser et se laisser séduire par des vins peu connus, c'est aussi le conseil de ce vigneron qui se souvient que jeune, avec ses amis, ils achetaient chacun une bouteille qu'ils dégustaient ensemble et couraient ensuite racheter les meilleurs crus.
Bonne idée. Merci Agnès. Le lever de coude n'est pas une discipline sportive. Dommage, on connaîtrait quelques athlètes.
Et pas plus haut que le bord. C'est l'heure des sports.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
La huitième journée de Ligue 1 qui se joue ce week-end sera très observée, mais pas uniquement pour des raisons sportives.
Quatre matchs au programme aujourd'hui, dont Saint-Etienne-Nice à 17h. Et un objectif, en finir avec les violences entre supporters. C'est ce que rappelle l'entraîneur des Niçois, Christophe Galtier. On se souvient par exemple que fin août, une rencontre entre son équipe et Marseille avait dû être interrompue. Christophe Galtier en appelle à la raison.
Évidemment qu'il doit y avoir une prise de conscience chez chaque supporter. Chez les responsables de groupes de supporters, on est bien touché au cœur, hein, la Ligue 1, il se passe beaucoup de choses. Moi, la fameuse excuse, les stades ont été vides, les gens ont été privés de tribunes, de matchs par rapport au Covid. Je ne peux pas valider ce genre d'excuses ou de raisons. Comme nous aussi, les entraîneurs, maintenant on a une grosse responsabilité sur le comportement de nos joueurs quand c'est chaud, notamment quand il y a des célébrations. Il faut se maîtriser de manière beaucoup plus importante pour faire en sorte que le football reste au cœur et au centre du débat.
Et parmi les autres affiches du jour, Paris Saint-Germain Montpellier à 21h, pardon. Paris, le leader privé de Messi encore comme à Metz puisque l'Argentin est blessé au genou et il est préservé en vue du choc du début de semaine prochaine face à Manchester City en Ligue des Champions.
Bon, et puis en top 14 de rugby, deux équipes sont toujours à la recherche d'une première victoire cette saison.
Oui, et alors ça va être compliqué pour le Stade Français qui reçoit une équipe à l'inverse invaincue depuis le début du championnat, c'est Castres. Et de son côté, La Rochelle, finaliste malheureux dernier, accueille un promu en très grande forme qui gagne en ce début de championnat, à savoir Biarritz.
Bon, et puis des monts et des pavés au programme des mondiaux de cyclisme sur route. Ce week-end, ça se passe en Belgique.
Oui, du côté de Louvain. Et aujourd'hui, place à la course en ligne féminine. Oui. Avec une question, est-ce que les Néerlandaises peuvent être battues? Ou plutôt, pourquoi d'ailleurs est-ce qu'elles gagnent tout le temps en cyclisme féminin, ces Néerlandaises, depuis quelques années maintenant? La réponse avec Fanny Lechevestrier aux côtés de l'équipe de France.
Pour comprendre la domination des Néerlandaises, il suffit simplement, explique Paul Broes, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, d'aller faire un tour aux Pays-Bas.
Quand j'ai vu tous les jeunes gamins sur les pistes cyclables avec leur sac d'école qui prenaient des relais comme en course, et j'ai dit bon bah là, voilà pourquoi on n'est pas dedans en fait, dès le plus jeune âge, ils font du vélo tous les jours, ils apprennent à s'abriter du vent, donc techniquement il y a plein de choses, donc là ça m'a vraiment fait tilt.
Avec à la clé un réservoir exceptionnel et l'émulation qui va avec, ajoute la doyenne des Bleus, Audrey Cordon-Rago.
En France, on a encore du mal à voir apparaître juste des pistes cyclables où on puisse être en sécurité. Il y a des clubs aussi, des clubs formateurs qui sont peut-être plus aidés que chez nous, ce qui fait qu'il y a du monde, il y a beaucoup de filles qui aujourd'hui tapent à la porte. On n'a peut-être pas encore cette réserve en France, mais ça va venir.
Car les Françaises ont enfin aujourd'hui les moyens de leurs ambitions, souligne Paul Brousse.
Clairement, on se rend compte que quand on met nos Françaises dans les mêmes conditions que les étrangères, elles ont deux jambes et deux bras, donc elles pédalent aussi vite. Hein.
En deux ans, les Bleus sont ainsi passés de la 17e place mondiale à la 9e, avec des Françaises qui n'ont pas oublié, en plus aujourd'hui, l'incroyable échec des Néerlandaises aux Jeux de Tokyo, piégées par un excès de confiance et une abondance de biens.
Fanny Lechevestrier et départ de la course en ligne féminine à 12h20. Merci Laetitia.
Dans le journal, Laetitia Bernard, dans le journal de Christelle Rebière, le temps de ce samedi.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Avec quelques orages en vue, Jean-Michel Golinski.
Un air lourd et orageux en provenance d'Espagne va gagner progressivement l'ouest et la moitié sud du pays jusqu'à la Loire, la Bretagne, puis en fin de journée, le bassin parisien et l'Alsace avec des orages forts, parfois de grêle du quart sud-ouest au Limousin. En fin de journée, de forts orages vont éclater du Languedoc au Val-de-Saône, puis la nuit prochaine, entre le Jura et la Provence, en donnant de fortes précipitations, notamment sur l'Hérault, le Gard et la région PACA. Le vent de secteur sud sera sensible autour de la Méditerranée, rendant la mer particulièrement dangereuse en seconde partie de journée, dans des températures qui, dans ce flux de secteur sud, vont afficher partout des valeurs supérieures à la saison.
Jean-Michel Golinski, Météo France.